Les oraux.
Émission.
La radio.
Chaque
semaine, la tienne, la mienne.
Écriture.
L'imprévu. Courir, parcourir.
Aujourd'hui.
Écouter.
Vivre.
Voix.
Resplendir.
Raya Srisha, la promenade, extrait. Chapitre 1. Comment s'aborder l'enterrement de ses parents et autres courses poursuites. J'avais en ce temps-là un professeur longiligne dont les membres s'emboîtaient dans un ordre aléatoire et fragile. Il avait mauvaise haleine et portait des chemises colorées. Sa face blanchâtre, tout le monde me paraissait alors excessivement blanchâtre, des gueules sanitaires, si je reprenais mes métaphores racistes d'alors, sa gueule sanitaire était posée sur cet emboîtement de forme, une fleur fatiguée. Son haleine avait l'odeur des bouquets aux eaux stagnantes qui finissent par fermenter, par vomir leur propre substance. Mais il aurait fallu condenser, saisir le professeur dans une formule, et même s'il est trop tard, puisqu'il est toujours trop tard, autant donner maintenant mon professeur dans un vase totem de sotsas. Un sotsas qui pue. Et ce sotsas qui pue cita un vers par lequel tout Beyrouth m'est revenu. Je n'étais plus retourné à Beyrouth depuis le grand départ. J'avais vécu avec les gueules sanitaires plus longtemps qu'à Beyrouth. D'ailleurs, à cette époque, je n'avais aucune envie de revoir Beyrouth. La ville s'était fermée 10 ans plus tôt avec la portière d'une voiture filant vers l'aéroport. Devant la maison familiale, ma grand-mère m'avait embrassé en me disant que nous ne nous reverrions plus. Elle était morte en bonne santé 3 jours plus tard. Beyrouth était morte avec cette grand-mère que j'aimais peu. C'était une créature sommaire, passablement bigote, dont il fallait guider la cataracte jusqu'à la messe du soir. Son fils, dont la paresse pourrait encore défaire 82 empires, s'était déchargé sur son propre fils, Batsmi, de ce calvaire quotidien. Aussi, partions-nous un peu avant 6 heures, quand Beyrouth agonisait ses lumières. Les rues versaient leur asphalte dans la gueule du jour et les ficus s'assombrissaient. Les façades des maisons luisaient avec des excès de sébum. Ça sentait l'abricot rassis, la chair négligée. Et Rose, ma grand-mère, peu portée sur la chose, accélérait le pas. Les bougainvilliers se mettaient tout de même à bruire bêtement comme les amis de ma sœur. Le jasmin explosait mieux qu'une guerre civile et les stores métalliques fermaient commerce et boutiques avec la lourdeur gênée d'un chant d'anniversaire. Depuis le far far west, la prière mégaphone des muezzines nous parvenait mêlée, dans nos esprits maronites, à des grognements canins. Chez nous, les cloches bêlaient et carillonnaient enjoignaient leur dieu d'abandonner sa faiblesse, de se montrer victorieux for once. Justement, sur le trottoir des phalangistes, Hairy Chest and Golden Cross caressaient leur kalachnikov avec des tristesses de poupées gonflables. Et Rose, toujours peu portée sur la chose, me pressait le bras. Je la soutenais dans son obsession d'horaire épilé précis comme ses sourcils. Je la soutenais dans sa passion des premiers rangs. il fallait que le curé nous voie. Je la soutenais toujours avec l'impression de guider son fantôme. Par le fantôme de la ville, à travers un itinéraire pareil au chapelet dont ses poches débordaient. Nous marchions invariablement à 6 heures mourantes, du foyer à la messe, de la messe au foyer, dans un silence chronique de crucifiés. Le plus souvent, je me taisais et elle ne disait rien. C'était, en y repensant, un mutisme maladif qui lui faisait des lèvres sourcils épilés, des lèvres portières fermées. Ses lèvres, je n'y avais plus jamais repensé, ni au calvaire, ni au silence, ni aux rares paroles qui ont pourtant dû exister, qui ont certainement existé, quand sur le seuil du grand départ, elle m'avait annoncé que « non, nous ne nous reverrions plus ». Et non, nous ne nous étions plus revus. Et cela m'avait été, depuis, parfaitement égal. Et cela n'avait plus jamais existé, jusqu'au jour où ce professeur laissa glisser un verre qui contenait Beyrouth. Et Rose, qui se taisait toujours et dont je parle sans raison, Rose ne m'avait jamais rien été, sinon un chemin vers la ville. Chemin impraticable de la mémoire, chemin de retour où des chiens errants se mettaient à grogner quand par un écart nous dérivions, rue de Damas, la ligne verte. Là, la ville devenait une forêt confuse, une tumeur glauque épinard encerclée d'architecture acnéique, façade caressée par les M16 sexting, des chaumines délicates dont les arcades grasses cils s'élargissaient parfois plus noires, le mascara d'un obus. Pas des constructions, mais des courbes boulimiques, la rêverie d'un marchand ottoman prise d'une nausée de ferraille. Black and green lines, où les façades, bouches ouvertes, bouches silencieuses de rose, couvaient des figuiers pleins comme des vulves de trentenaires, des néfliers adipeux, des pneus crevés, des dépouilles et du plastique chatoyant, du rose et du bleu ciel éclatant, au milieu sombre des fougères. Par l'aumône d'un verre, par la parole d'un professeur vaseux, toute une ville galeuse s'était mise à louvoyer en moi. Une carte fragile cherchait à se déployer avec des douleurs aux jointures. J'étais pourtant à cette époque parfaitement indifférent aux poèmes, encore plus qu'à Beyrouth. Les professeurs n'existaient pas, ni les sotsas, ni la rose aux hécatombes. J'aspirais alors à devenir un ciel du Nord, un ciel pareil aux gueules sanitaires, un ciel d'été circoncis avec des pollens de lumière. Mes rêves même étaient d'écorce claire comme une forêt de bouleaux. Mes rêves avaient l'odeur des résineux et la lourdeur d'une bécasse. Je disais justement Crisinda, et ce prénom durait en moi. Crisinda crissait dans ma bouche comme une pâte sablée. Crisinda et les pas mansardés d'une soubrette grincée sur des parquets blonds. Dans les yeux fjords de Crisinda, qu'elle contre-plongeait à la Wells, mouraient des bouteilles de lait pasteurisées, des yogourts au bifidus, des alpages de mentos. Si je reprenais mes métaphores immigrées fraîches d'alors. Voilà que des syllabes croupissantes, des sottises de sotsas m'enlevaient à ce monde de cellophane léger, merveilleusement stérilisé, pour me ramener, 10 ans plus tôt, au cotère des ruelles de Beyrouth, que nous quittions alors pour la première fois. Petit départ, le long de la route. Des ficus bouffis comme des boutiquiers arméniens. Des palmiers décapités. Des Saint-Denis processionnés dans un silence cathédral. Seule notre voiture tout sautait avec l'aube. D'un checkpoint de l'autre, surprenant des phalangistes au bord meurtri du jour. Ils nous laissaient filer pour quelques cigarettes sous les murmures réticents des eucalyptus. C'était déjà un entraînement, un échauffement au grand départ, cette route côtière de 85 km jusqu'au nord. Là-bas était une ville faite de fleurs d'oranger et d'yeux bleus. Une ville où les croisés dormaient encore sous les ottomans et où nous dormirions à notre tour quelques mois durant, en attendant que s'achève à Beyrouth la saison des morts. On emménagea, avec Février, dans un complexe balnéaire immense fait de petits appartements. Dès l'arrivée, on y mena des rêves tambours battants de gloire militaire, des luttes corps à corps contre des puces opiniâtres, ayant survécu aux comtes de Toulouse et aux assauts des Mamelouks. On leur disputait un tas de sable où l'on creusait des galeries approximatives qui finissaient toujours par s'effondrer sur nos soldats de plastique vert. On abandonnait, là, nos troupes à la hâte, sans faire les comptes, sans deuil. Comme nous le ferions plus tard avec Rose, non, nous ne nous reverrons plus. Pour l'heure, on décampait à travers de longs couloirs, faits de parpaings exténués. On dérobait des regards entrouverts aux portes des familles. On empruntait des vis et des escaliers jusqu'aux buvettes perpétuellement fermées des rez-de-chaussée. Là, des grenadiers migraineux, sans fruits, très vieilles filles, nous accompagnaient le long de pelouses résignées, entre les fractures des parasols, jusqu'aux bassins desséchés ou cafardés des cafards, mouvements noirs sur l'azur des carrelages. On y torturait un crapaud sans baiser dans l'immensité sanitaire silencieuse de ces piscines vides, comme le cœur d'un dieu. Et l'on dérive depuis, perpétuellement hors saison, dans les salaisons des lotissements aux tristesses numérotées, tandis que dans le chalet, un échauffement, un entraînement au grand départ, un père au WC continue de pleurer son père, mon grand-père, impossible à enterrer au bout de cette route côtière de 85 km au sud, où était une ville aux cotères sans baume, que nous avions alors quittée pour la première fois. On croit, par la grâce d'un verre, échappé à un professeur, que Beyrouth se mettra à fondre dans sa bouche comme le corps azyme du Christ, et bénit toute une enfance irait courir dans les rues de la mémoire, mais l'on bute sans cesse. Chaque souvenir est une impasse, un lieu isolé sans lien avec le plan général. Les jours passés n'ont pas de visage, les jours étêtés, palmiers décapités, processions et... Si je veux ouvrir la bouche sur Beyrouth, la carte désarticulée de la ville se froisse avec mes os.